En tant qu'ami, je garde de lui l'idée de quelqu'un qui est un bon ami, qui est fidèle en amitié, qui est franc, qui est solidaire, vraiment, mais qui, pas mais, et qui en même temps aime voir cette amitié avancer et créer quelque chose de positif, qu'elle ne soit pas simplement une amitié plate et sans intérêt. Par exemple, quand c'est un ami à lui qui aime la musique, alors il était tout le temps en musique. Quand c'est quelqu'un qui aime lire, il s'expliquait l'un l'autre le contenu de livres qu'ils ont lus, etc. Il parlait de sport, ainsi de suite. Donc, il trouvait un point d'attache pour chaque amitié, j'ai l'impression. C'est le souvenir que j'ai. En tant que leader, j'ai vu en lui un homme d'action. Un homme de réflexion et de contradiction. En cela qu'il acceptait la contradiction, contrairement à ce que beaucoup ont dit. En 4 années, lui et moi n'ont pas été d'accord sur quelques sujets. Il l'a fait savoir, je le lui ai fait savoir. Mais ce que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, c'est que lorsque nous étions en désaccord sur un point, 1, 2, 3 jours après, il revenait vers moi et il me disait, j'ai réfléchi, je conserve mon idée. Ou bien il disait, j'ai réfléchi, je crois que tu as raison. Et c'est ainsi que un débat n'était jamais clos sans avancer, sans aller au plus loin qu'on pouvait.
Pouvez-vous nous parler d'un moment particulier qui vous a marqué dans votre relation avec lui?
Un moment particulier. Il y a eu, je pense à un soir, un début de soirée, il est revenu d'un sommet de la CDAO, je crois, ou de l'UEMOA, je ne suis pas très sûr, mais un sommet à Niamey, je pense. Et à l'aéroport, il a fait un point de presse et il a eu des mots très durs envers le pouvoir au Mali. Et c'était donc, je pense, un peu avant la fin 85, je pense. Et il a eu des mots très durs. Et il a même dit, le Mali a besoin de révolution. Quand j'ai entendu ça, entendu ça à la télévision, je me suis hâté d'écrire un mot et j'ai envoyé mon chauffeur lui remettre ce mot. Le chauffeur était d'ailleurs arrivé quelques minutes seulement après lui, au palais. Il a réussi quand même à faire remettre le mot parce que, puisqu'il était connu par la sécurité et le protocole. Et dans ce mot, je disais que ce qu'il avait dit était très déplacé et que le Mali ne prendrait pas ça bien. Que la fierté du Mali et la fierté du général Moussa Traoré allaient les pousser à réagir. Il est venu le soir, le lendemain soir, chez moi, après 22 heures, et nous avons parlé de son point de presse. Et il m'a dit, tu as raison, ça a été mal pris à Bamako. J'ai appris que ça a été mal pris à Bamako. Et je lui ai dit, oui, ça ne m'étonne pas, ça va être très mal pris à Bamako, et ça, peut-être que ça ne s'arrêtera pas là. Je n'ai pas été étonné que quelques semaines après, il y ait eu ce que nous avons appelé la guerre entre le Burkina et le Mali. Qui a duré quelques jours, pas beaucoup, heureusement. Et ce que beaucoup ne savent pas, c'est que le président Houphouët-Boigny a contribué grandement à apaiser la querelle. Bon, voilà un exemple précis qui a fait que Sankara a reconnu que c'était une erreur de sa part. Oui, il avait des raisons d'être fâché quand il est revenu de ce sommet, parce qu'il n'avait pas été traité galamment par les autres chefs d'État. Je crois qu'on lui avait refusé la présidence à l'exercice d'une organisation. Je ne me rappelle vraiment plus là. Et il était très remonté contre cela. Mais bon, la colère, le ressentiment a fait qu'il a eu ses mots déplacés. Ça, c'est ce que tout le monde pense, ce que tout le monde également a retenu, c'est le dîner qu'il y a eu entre Sankara et Mitterrand. Quand Mitterrand est venu à Ouaga après le sommet de la CEDEAO à Lomé. Sankara n'avait pas été à ce sommet. Et quand Mitterrand a décidé de passer par Ouaga sur le chemin de retour à Paris, les chefs d'État n'ont pas beaucoup aimé, présents à Lomé n'ont pas beaucoup aimé, parce qu'ils se sont demandé pourquoi est-ce que Mitterrand allait faire cette fleur à Sankara de passer par Ouaga alors que Sankara a refusé d'aller à Lomé au sommet. Bon, bref. Mais ce dîner était mémorable en soi, que Sankara a fait un discours très engagé, très très engagé, sans complexe. Et sans complexe, tout simplement. Et Mitterrand aussi a su répondre à ce discours de Sankara. Les mots de Sankara l'ont d'ailleurs obligé à s'écarter un peu de son discours écrit, lui, Mitterrand, pour répondre à Sankara. Mais c'était une anthologie, c'était très, très intéressant, du point de vue engagement politique et du point de vue diplomatique. Voilà.
Quels étaient les principaux objectifs de la révolution que vous meniez ensemble?
Well, Sankara, je ne l'ai pas connu avant 2000, longtemps avant la révolution. Mais tout ce qu'il faisait était le résultat d'une maturation. On pouvait aisément discerner, que c'est tout au long de sa jeunesse, de sa vie, qu'il a compris la société dans laquelle il vivait et qu'il avait chevillé au corps le souci du mieux-être de la collectivité, mais vraiment du mieux-être de tous. Il avait un souverain maîtrise de l'abondance pour quelques-uns, du confort pour quelques-uns. Plus d'une fois, je l'ai surpris en train de regarder le climatiseur en marche chez moi, avec un air de désapprobation, mais probablement se disant, oh, ça c'est un réflexe bourgeois d'avoir la climatisation. Au point où un jour, je me suis senti obligé de lui dire, camarade PS, avoir la climatisation, ce n'est pas un luxe. Je trouve qu'avec le climat que nous avons ici, c'est une nécessité. Et il ne faut pas, nous ne devrions pas nous priver de climatisation, nous devrions faire en sorte que tout le monde ait la climatisation. Donc il ne faudrait pas faire une sorte de nivellement par le bas, il faudrait faire un nivellement par le haut. Bon, je ne suis pas sûr de l'avoir convaincu. Il y a eu d'ailleurs une anecdote une fois au bureau, à la présidence, j'étais allé avec le directeur général de l'UNICEF et nous attendions au salon. C'était entre le mois de décembre et de février, et en cette période, toute la climatisation était coupée dans les bureaux étatiques, même à la présidence, parce que c'est une période dite fraîche, et Sankara estimait qu'on n'avait pas besoin de climatisation. Alors, la climatisation était coupée donc, là où nous étions assis, en attendant de voir le président, d'être reçu par le président. Et j'ai vu le pauvre directeur général de l'UNICEF, un Américain blanc, Monsieur Grant, en train de transpirer, Alors je me suis levé, j'ai branché le climatiseur et l'ai mis en marche. Lorsque des fonctionnaires à la présidence ont entendu ce bruit, ils ont accouru, mais vraiment tout effrayé, tout paniqué, comme on dirait. Ils ont dit qu'est-ce que c'est que ça? Et puis, quelqu'un est entré dans le bureau de Sankara, un militaire, pour lui remettre un document, et Sankara lui aurait demandé qu'est-ce que j'entends là? Et c'est un climatiseur en marche. Et le militaire a répondu oui. Il a dit, c'est où et qui a mis le climatiseur en marche? Ah, c'est au salon, c'est le camarade Ismaël Diallo qui l'a mis en marche. Sankara n'a rien dit. Bon, quand il a terminé avec ce qu'il faisait, il nous a fait entrer. J'ai vu son regard vers moi. Pas de grande désapprobation, encore une fois, mais une sorte d'interrogation. Pourquoi est-ce que j'ai mis le climatiseur en marche? Bon, et plus tard le soir, il m'a téléphoné, il m'a dit « Tu as enfreint le règlement ». Je lui ai dit « Oui, j'ai enfreint le règlement par nécessité et par confort pour l'autre que nous avons. » Bon, il n'a pas commenté. Alors, voici des passages de ce qu'il y a. Sankara est extrêmement soucieux de l'amélioration constante de la vie des gens, et surtout des gens les moins fortunés.
Et pensez-vous que ces idéaux sont toujours pertinents dans le Burkina Faso d'aujourd'hui?
Oh, tout à fait. Tout, il n'y a rien de plus pertinent que ce que Sankara a voulu, non seulement au Burkina, mais je dirais partout en Afrique, pour ne parler que du continent africain.
Et comment décririez-vous la vision de Sankara pour l'Afrique et sa place dans le monde?
Sankara était panafricaniste, mais pas panafricaniste simplement pour que l'Afrique soit unie. Il était panafricaniste par nécessité, comprenant que la Haute-Volta d'abord, le Burkina Faso ensuite, tout seul, vraiment ne pesait pas dans l'échiquier international. Avant l'accession au pouvoir le 4 août 1983, nous discutions de la ligne qu'il faudrait prendre au niveau régional et continental et international. Et au plan régional ou sous-régional, il était clair pour nous qu'il fallait rapidement travailler à l'intégration. L'intégration vraiment à l'union des pays de l'Afrique de l'Ouest ou tout au moins de quelques pays en Afrique de l'Ouest. Nous avons vraiment travaillé là-dessus. Et dès le premier voyage hors de Ouaga que Sankara a fait, il avait haut dans son agenda des discussions avec un ou des chefs d'État sur la question de l'intégration. Et en octobre, donc 3 mois après l'accession au pouvoir, assis à la terrasse du palais de Koulouba et au retour d'un des voyages, Sankara me dit, tu sais, l'intégration, moi maintenant je vais m'occuper de la Haute-Volta. Nous n'avions pas encore changé le nom en Burkina Faso, c'était à 3 mois de la crise. Je vais maintenant me concentrer sur la Haute-Volta, parce que les chefs d'État ne sont pas intéressés par l'intégration. Quand je parle de l'intégration, on me regarde. Et personne ne montre de l'intérêt. Voilà exactement les mots qu'il a utilisés. Et j'étais bien entendu pas perplexe, je n'étais pas très étonné, honnêtement, parce que même au jour d'aujourd'hui, je ne connais pas de chef d'État qui est vraiment prêt aujourd'hui à être à faire une union au risque de ne plus être chef d'État et d'être vice-président ou d'être président de l'Assemblée nationale ou des choses comme ça. Alors, il a perçu ça, Sankara, et il a été vraiment très déçu, très amer. Moi également, bien sûr. Bon. Mais nous avions continué quand même à espérer. Et un jour, je me rappelle très bien, Sankara, Rawlings et moi, je crois que c'était d'ailleurs une des rares fois où nous étions tous les trois seuls. Ça n'a pas duré longtemps parce qu'il y avait toujours des gens qui allaient et qui venaient. J'ai profité de cet instant-là pour leur parler d'union et leur ai fait une sorte de suggestion peut-être insensée de nous embarquer sur un exercice d'unification du Ghana et du Burkina. Mais en l'espace de 45 jours, pas au-delà. Et j'ai fait une sorte de présentation de timetable, de calendrier d'activité, comment ça pourrait se faire. Et à ma grande surprise, tous les deux étaient vraiment enthousiasmés et croyaient à cela. Ils étaient enthousiastes, vraiment. Mais ils ont reconnu, là également tous les deux, que le plus difficile allait être de convaincre, tenez-vous bien, ce qu'on appelle l'intelligentsia, ce qu'on appelle la classe. Et que ce sont eux qui allaient être plus difficiles à convaincre parce que eux, ce sont eux qui estimaient avoir quelque chose à perdre du point de vue la possibilité de grands postes nationaux. Bon, mais je pense qu'ils y ont travaillé tous les deux, Rawlings de son côté, Sankara également. Et un soir, je vois à la télévision que la commission mixte Burkina-Ghana va se réunir et discuter de différents thèmes. J'ai regardé mon épouse et je lui ai dit qui politiquement est une compagne, pas simplement une femme ou une épouse, comme on dit. Et je lui ai dit, l'intégration, c'est foutu. si ce sont des commissions qui vont se réunir, eh bien, on n'en sortira pas. Il y aura commission après commission, mais il n'y aura pas d'union. Et quelques jours après, lorsque je m'en suis ouvert à Sankara, il m'a dit, tu as compris. Effectivement, c'est cette même classe politique. Et ce qu'on appelle ces intellectuels, qui sont en vérité des diplômés, qui ont freiné des quatre fers une union, parce que, comme dit l'adage, chacun préfère être la tête du rat que la queue du lion. Alors, voilà un exemple, et ça, bon, on n'a pas pu le faire. Nous avons des expériences aujourd'hui qu'il faut saluer, qu'il faut appuyer, mais ne pas trop se faire. Il faut être enthousiaste et travailler, mais sans grande division.
Et comment voyait-il la lutte pour l'indépendance économique et politique du continent?
Oh, il insistait énormément, parce que pour lui, l'indépendance, la souveraineté, la dignité, l'intégrité commencent par se suffire à soi-même. Et il a dit une fois, il a dit, vous voulez savoir comment est-ce que vous êtes dépendant? Vous voulez savoir comment est-ce que vous n'êtes pas indépendant? Eh bien, n'allez pas loin, n'allez pas chercher l'impérialisme loin. Il est là devant vous, il est dans le riz que vous mangez. Ce riz que vous mangez et que vous importez à grands frais, vous ne le cultivez pas, vous ne le produisez pas. Vous êtes dépendant de l'étranger, alors voici votre dépendance. Voici votre manque d'indépendance. N'allez pas chercher loin. Cela disait tout. Et le slogan qu'il a lancé, mangez et produisez ce que vous mangez et mangez ce que vous produisez, veut tout dire. Aujourd'hui, beaucoup de pouvoirs en Afrique, ou certains pouvoirs en Afrique, reprennent le même slogan, avec difficulté. Mais c'est parce qu'il faut rendre, il faut le faire et donner l'exemple. Un soir, au palais, il y a eu un cocktail pour une délégation américaine, et j'ai pris une des assiettes en porcelaine, je l'ai retournée, j'ai dit, camarade PS, regardez ça. PS pour président du FASO. Nous l'appelions comme ça. Et il a regardé porcelaine de Limoges, des choses comme ça. Je lui ai montré ça. Et je lui ai dit, nous pourrions faire ça. Nous pourrions fabriquer ça, plutôt que d'importer. Et il m'a dit, ah bon, où ça? Et je lui ai dit, au quartier à la Patte d'Oie, il y a un Burkinabé qui fait des assiettes, des trucs en porcelaine. Pas en porcelaine, en... How you call it? Oh my God.
En plastique?
Ah. Non, pas du tout. Oh, ça c'est grave.
En argile?
Ça, c'est grave. Oui, quelle argile, mais il y a un autre mot pour ça. Il y a un autre mot. Ah, bon, ça va me venir. Tu as même utilisé ça quand tu es venu ici. Bon, donc, on fait ça. Il me dit, ah bon? Je dis oui. Et tenez-vous bien, le lendemain matin, l'intendant du palais m'appelle et me dit, camarade Ismaël Diallo, le PS me dit de vous voir concernant les couverts et tout ça. Je dis oui. Et donc, j'appelle le monsieur au quartier à la Padoie et je lui dis, écoute, il y a quelqu'un qui va venir, tu vas lui expliquer comment tu fais la poterie. Et tout ça, tout ce que tu fais. Il dit d'accord. L'intendant est allé là-bas. Et quelques mois après, peut-être quoi, trois mois, quatre mois tout au plus, il y a eu un autre cocktail. Je suis allé et j'ai constaté que toutes les assiettes, tous les plats, tous les grands pots qui contenaient les aliments étaient en poterie faits dans le quartier, au quartier. De la Padoie à Ouaka. Et Sankara, nous voyons observer ça, il prend une fourchette importée, il m'apporte la fourchette, il la brandit et me dit, on n'a pas encore commencé à faire ça. Je lui ai dit, ça va venir. Mais voilà un exemple extraordinaire, parce que il a voulu démontrer qu'on pouvait le faire et que nous pouvions le faire, et il l'a fait. Et depuis, chez moi par exemple, on ne mange que du riz burkinabé, on ne mange pas de riz importé. Et mon personnel de maison sait que tout ce qui existe au Burkina, fait au Burkina, a la priorité comparée à tout ce qui vient d'ailleurs. Et tout ce qui n'est pas fait au Burkina doit être remplacé, entre guillemets, par des produits similaires faits dans les pays voisins. Ici, il n'y en a pas, c'est en Afrique. S'il n'y en a pas, bon, ailleurs. Mais c'est une discipline qu'il faut avoir soi-même. Et Sankara aimait cela, ce genre de discipline et de vérité en soi et avec soi. Il aimait cela. Et c'est en cela que nous étions vraiment en phase, lui et moi surtout, parce qu'on savait que quelles que soient nos petites contradictions, l'essentiel était la sincérité dans être au service de la collectivité.
Et selon vous, pourquoi Thomas Sankara est-il devenu une école révolutionnaire au-delà des frontières du Burkina Faso?
Je crois qu'il faut en effet se poser la question, parce qu'il n'a été que 4 ans un nom public. De présidence, 37 ans après, il est encore connu et on se rappelle encore de lui partout à travers le monde. C'est quand même extraordinaire. Alors que ce langage qu'il a eu, il n'était pas le premier à l'avoir. D'autres l'ont eu, pour ne parler que des Africains. Amilcar Cabral l'a eu, Lumumba l'a eu, quoi d'autre, Kwame Nkrumah bien entendu l'a eu, Sékou Touré l'a eu, beaucoup d'autres l'ont eu. Et je parlerai également des gens comme Steve Biko et d'autres. Chez vous, en Afrique de l'Est, en Afrique, partout en Afrique, il y a eu des leaders et des jeunes leaders qui ont eu les mêmes mots, les mêmes slogans, les mêmes visions, les mêmes projections que lui. Mais, bon, Sankara, il y a quelque chose, peut-être d'indéfinissable, qui fait qu'il est encore dans l'esprit et dans le cœur de beaucoup de personnes. À travers le monde, vraiment, en Asie, en Amérique latine, beaucoup seraient surpris qu'on se rappelle encore qu'il a existé et qu'il est un leader promoteur.
Quelles leçons de la période sankariste peuvent encore guider les jeunes générations en Afrique?
C'est la sincérité dans les sentiments de servir le peuple. C'est l'acceptation qu'on n'est pas un messie. Sankara ne se prenait pas du tout pour un messie, du tout. Il se savait homme imparfait, vulnérable, qui se trompe, mais qui doit reconnaître quand il se trompe. Il faudrait cela. Et il faudrait que il faudrait un don de soi, mais un véritable don de soi. Il ne faudrait pas que la peur du risque, que le souci de la préservation même de sa vie prenne le pas sur la raison d'être et l'objectif essentiel qui est de travailler au bien-être du peuple. Mais combien sont capables de le faire? Nous avons beaucoup de soi-disant panafricanistes, mais ils vivent dans le confort, hein, et ne mangent pas une seule fois par jour, ni ne dorment dans des conditions difficiles. Alors, le message de Sankara, comme d'autres, Amilcar Cabral et d'autres, est toujours actuel. Mais dans la profondeur, dans la sincérité, combien d'Africains, jeunes surtout, sont véritablement capables de personnifier ces engagements? La vie est devenue tellement facile pour beaucoup qu'ils ne s'imaginent pas les privations qu'il faut avoir. Et pas beaucoup sont prêts à ces privations, surtout à donner de sa vie.
À votre avis, qu'aurait fait Thomas Sankara aujourd'hui face aux défis actuels que rencontrent le Burkina Faso et l'Afrique?
Au plan national, je crois qu'il aurait dit à tout le peuple: cessez de fuir quand on vous chasse de vos villages. Armez-vous, battez-vous. Vous êtes les premiers responsables de votre vie. ce n'est pas l'armée qui doit tout faire pour vous. Première des choses. Sankara aurait fait ça. Il aurait donc transformé le peuple en une sorte d'armée populaire. Comme l'ont fait d'autres pays. D'autres pays. Prenez le cas de l'Algérie, un peu pour ne citer que ce cas. L'Algérie a eu combien ? 10 ans de guerre civile. L'armée n'a pas réussi toute seule à vaincre les terroristes. Le gouvernement a dû demander aux populations de se relever et de faire ce qu'elles ont fait pendant la lutte de libération. Et c'est cet apport-là qui a permis de juguler le fléau terroriste et la guerre civile. Entre autres, il y a d'autres exemples. Je crois qu'il aurait fait cela d'abord. En plus, au niveau, il aurait beaucoup insisté sur l'alphabétisation. Beaucoup. Il aurait franchi les pas de ce que nous avions préparé, c'est-à-dire revoir totalement la conception et la pratique des systèmes de l'éducation, de la justice, de la santé que nous avons hérité de la colonisation. Nous allons revoir tout cela. Exemple, renverser la conception et la pratique de la santé en mettant en avant la prévention, la qualité de l'alimentation, de l'environnement, suivi par les soins. Actuellement, comme ça se fait en Occident et dans les pays qui nous ont influencés, on court après la maladie pour soigner le patient. Alors qu'il faudrait, selon notre conception, faire en sorte que la personne humaine ait le moins de risque d'être malade. Et en plus de cela, quant aux soins, nous étions résolus à faire un syncrétisme, à faire un réel métissage de l'apport ou des apports extérieurs, pas seulement de l'Occident ou de la France, mais d'ailleurs, de l'Asie, d'ailleurs, des peuples autochtones, d'ailleurs, d'Amérique latine, d'Australie, d'ailleurs, et de nos savoirs endogènes, ici. Nous devions rassembler tout cela et trouver un système sans complexe. Mais pour cela, comme a dit Amilcar Cabral en 1966 à La Havane, il faudrait que nous ayons l'intelligence, nous, soi-disant petits bourgeois, l'intelligence d'accepter que nous devons nous défaire de certains complexes, de certaines pesanteurs pour nous refaire, pour nous repenser avec un rassemblement un cocktail de tous ces savoirs venus d'ailleurs et de chez nous. Et Sankara, il était vraiment décidé à sortir de la cage dans laquelle nous avons tous été formatés par les religions importées, par la colonisation, par les idéologies importées, soit de gauche ou de droite ou d'ailleurs, ou de n'importe quel point. Et il voulait vraiment oser ouvrir de nouveaux chemins. Alors, malheureusement, il n'y avait pas assez de personnes convaincues autour. Et il était de manière têtue, totalement opposé à la violence envers ses camarades. Il a été prévenu plus d'une fois, que tel camarade ou tel autre était un danger, même pour sa vie. Mais il s'est toujours refusé à, comme on dirait au Far West, à dégainer le premier. Toujours.
Et il a payé très cher.
Il a payé de sa vie, mais il savait que ça allait venir.
Et au niveau africain ?
Au niveau africain, il a voulu de l'intégration. Mais je dois dire que il a eu deux handicaps. Le premier est que il n'était pas certain de la solidité de l'assise intérieure, interne. De sorte qu'il en était extrêmement soucieux. Extrêmement soucieux. Et voici pourquoi il voulait aller très vite, très très vite. Et à l'extérieur, il ne trouvait pas assez d'écho. Et même ceux qui pensaient comme lui, comme Samora Machel, comme d'autres, avaient eux-mêmes leurs soucis qui faisaient que ni l'un ni l'autre n'avait le luxe de penser à des unions ou à d'autres expériences hors de chez eux. Alors, la période était bonne pour des éclosions, pour l'éclosion de ferveur panafricaniste révolutionnaire, mais les entraves, les courants contraires étaient tels que c'était trop pour un homme, pour un seul homme. Alors, c'était extrêmement difficile, extrêmement. Et plus d'une fois, lui et je suppose Samora et d'autres se sont trouvés dans des situations désespérées, et il fallait continuer à avancer.